Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'écriture a toujours été là. Je me souviens plus de cette histoire. Enfin, il y a plusieurs histoires dont je me souviens plus, mais ma mère me les a racontées récemment. En primaire, je m'en souviens vaguement, fallait écrire une rédaction, une histoire sur un thème imposé. Et la maîtresse avait dit super ton histoire, mais c'est ta maman ou ton papa qui l'a écrit. Et j'étais genre, bah non.
Exécuté par qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Tu disais que tu avais des questions, c'est ça?
Je les poserai quand tu t'y attendras pas.
Ah ouais?
Non, c'est pas vrai. Non, mais on vient d'en parler. Comment tu choisissais tes invités et quel succès tu choisissais? Enfin, dans le sens, quand est-ce que tu considérais qu'il y avait un succès et donc qu'il y avait un invité et donc que ça rentrait dans ta ligne éditoriale?
C'est très personnel. Et je t'avoue que je ne saurais même pas répondre. En tout cas, moi, je suis très heureux de t'avoir là. Et l'un des trucs qui m'a donné envie de parler avec toi, c'est que tu as sorti ton premier roman. Et je trouve que, on en reparlera un peu après, mais tu vois, par exemple, il y a Amélie Nothomb qui a dit des louanges de ton bouquin à la radio. Et en fait, je trouve que c'est hyper important de t'avoir là, à ce moment-là, de ton début de carrière d'autrice. Tu dis comment? Autrice ou auteur?
Autrice, j'aime bien. J'aime bien écrivaine aussi.
Ok. Parce que tu vas forcément dire des trucs que tu diras peut-être pas ou que tu auras peut-être oublié, même tu vois, dans 20 ou 30 ans. Et je trouve que de t'avoir là, à ce moment-là, du début de ta carrière, qui en plus, c'est assez rare, on va en parler, mais d'avoir un premier bouquin qui marche à ce point-là, y a pas beaucoup d'autrices ou d'auteurs d'ailleurs qui peuvent se targuer d'avoir réussi à avoir un succès pareil. Et donc, pour moi... C'est pour ça aussi que je souhaitais t'avoir, au-delà du thème de ton bouquin. D'ailleurs, il est super dur à pitcher, ton livre.
Ah ouais?
Écoute, tu vois, j'en ai parlé à une amie, ce week-end et je lui disais que j'étais en train de lire ton livre. Elle m'a dit, mais de quoi ça parle? Et je lui dis, écoute, c'est très compliqué parce que je crois que si je t'en raconte un peu trop, ça va tout de suite spoiler, en fait. Donc, pour moi, c'est juste une meuf qui est hyper amoureuse de son mari, parce que c'est mon mari, ça s'appelle Mon Marais. En plus, je l'ai lu pendant... C'est quoi cette ref? Moi, je me suis posé pendant tout le week-end. Moi, je l'ai lu Mon Marais.
Tu sais, Mon Marais.
Mon Marais, voilà. Donc, qui est hyper amoureuse de son Marais et pour qui, à la limite, rien d'autre n'existe que l'amour qu'elle lui porte, qui est un amour... un poil toxique, hein, en tout cas.
Un poil, je pense qu'on peut le dire.
Et en fait, tu vois, venir raconter plus que ça, c'est déjà venir trop dire, j'ai l'impression.
Mais c'est déjà un bon pitch.
Ok.
L'histoire d'une femme beaucoup trop amoureuse, trop intense, en grande dépendance affective vis-à-vis de son mari, donc de l'homme qui partage sa vie. Je pense que déjà, c'est un bon pitch.
Ok, d'accord. Bon, écoute, on va parler un peu justement de toute cette aventure qui t'amène aujourd'hui là où t'es. Mais la première question que je voudrais te poser, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans, Maud?
Donc 7-8 ans, j'étais en CE1, CE2, c'est ça. J'étais une petite fille qui se posait énormément de questions. J'étais pas du tout insouciante. J'ai l'impression qu'on... Je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec la vision de l'enfance comme une époque forcément insouciante, heureuse. On joue et on se pose aucune question, l'espèce de paradis perdu. J'ai une enfance très heureuse. Je suis très proche de mes parents, de mon frère, donc j'étais très bien entourée et j'ai une enfance très heureuse. Mais cela dit, je me posais énormément de questions. J'avais l'impression d'être un peu toujours dans ma tête, dans mes histoires... Donc c'était une période pleine de doutes quand même. Et donc à quoi je ressemblais? J'étais une petite fille avec des grosses lunettes rouges rondes. J'étais plutôt bavarde, toujours une histoire à raconter. Et ce que j'aimais particulièrement à cet âge-là, c'était jouer avec mes peluches, mes doudous et inventer des histoires.
Faisais raconter des histoires, quoi.
Exactement. Et un de mes premiers souvenirs d'enfance, c'est ma mère qui vient me chercher à l'école. Et sur tout le chemin du retour, je commence à me raconter des histoires dans ma tête. Et je commence à faire les scénarios. Et donc, dès que j'arrive, je vais dans ma chambre. Et là, je mets en place l'histoire que j'ai dans ma tête. Ça va être l'histoire de elle sera sœur avec elle. En fait, ce sera une sorcière. Et en fait, elle, il va se passer ça. Donc déjà un monde, plein d'histoires dans ma tête.
D'accord. Est-ce que tu as la sensation, quand tu as 7-8 ans et que tu te poses toutes ces questions, que tu as la possibilité de les poser dans ta famille, à tes parents, et qu'ils sont en position de les entendre?
Oui, et en fait je sais que je me posais beaucoup de questions aussi parce que c'est ce que ma mère m'a raconté, c'est-à-dire que je suis très différente de mon grand frère qui a 2 ans de plus que moi. Et donc, en grandissant, ma mère était étonnée de nos différences, où mon frère, tout a semblé un petit peu évident, pour lui, assez naturel. Et moi, je demandais tout le temps pourquoi. Je posais énormément de questions. Et c'était pas du tout un tempérament rebelle à ce moment-là, mais c'est vrai que ma mère était surprise de ces différences. Mais j'avais toujours besoin de comprendre le fond des choses, d'aller dans le pourquoi. Et donc, ma mère prenait le temps et elle me disait, je vais t'expliquer des choses, je ne comprenais pas pourquoi, mais je sentais que tu avais envie de savoir pourquoi. Une fois que tu savais le pourquoi du comment, tu étais très contente de le faire, mais, enfin, exemple, va te brosser les dents. Ah oui, pourquoi? En fait, et j'ai vraiment des souvenirs de ma mère qui me dit, en fait, t'as des petites bactéries qui vont se mettre sur ses dents, et en fait, c'est pour ça. Et pourquoi le soir? En fait, parce que pendant que tu dors, et tout était pourquoi, j'avais envie de comprendre.
Et en grandissant, pendant l'adolescence et tout, t'as gardé cet univers imaginaire que tu racontais tout à l'heure, ou c'est un peu parti avec le temps?
Je pense que je l'ai toujours gardé sous différentes formes. Donc vers le... Je pense que c'est plutôt CM1, CM2. Ça s'est transféré des peluches vers les Barbies. Il y a une grande période de ma vie aussi, parce qu'on joue aux Barbies, donc on se raconte des histoires. Au collège, les Barbies se sont transformées en Sims. J'ai énormément joué aux Sims.
Yes.
Et les Sims, c'est ça. Je rentrais chez moi, j'étais vite ma famille Sims. Il va se passer ça, et en fait, le voisin, ça va être le père, le mari, etc. Et donc, je m'inventais des histoires. J'écrivais aussi déjà pas mal dans mon petit journal intime. Donc, que ce soit l'écriture ou les histoires, oui, j'ai continué à aimer les histoires.
Qu'est-ce que tu racontais dans ton journal intime à l'époque? Tu parlais de toi, ou alors tu narrais ta vie?
Ouais, c'était assez nombriliste.
Ouais.
C'était ma chinette et pas copine avec moi, et elle a dit à machin que Bidule m'aimait bien, mais moi en fait je préfère machin, et machin a dit que Bidule avait dit qu'elle était plus copine avec moi. Donc à peu près ce genre de choses.
En grandissant, au lycée, c'est quelque chose que tu continues à faire?
Oui, j'ai continué à beaucoup écrire.
Toujours?
Oui. Là, c'était plus mes histoires d'amour, mes premières histoires d'amour, et puis toutes les questions que je me posais. En fait, le questionnement n'est jamais parti. Donc, les grandes questions qui m'obsédaient dès le lycée, c'était à peu près qui suis-je? J'avais l'impression de ne pas avoir de personnalité pendant longtemps. C'est quelque chose qui m'a angoissée. Je me disais, mais quels sont mes goûts? Qu'est-ce qui est vraiment moi? Qui suis-je? J'avais l'impression de ne pas savoir qui j'étais.
Mais ça venait d'où?
J'avais cette impression de... d'avoir rien qui me caractérisait. Et ça venait avec d'autres questions comme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est une question qui m'a aussi beaucoup angoissée. Qu'est-ce que je vais faire? Et qui sera aussi... l'homme de ma vie, grande question qui a commencé à m'angoisser à partir de mes, je pense, 15 ans et demi. Et voilà, donc c'était tout plein de questions que je me posais sur mon avenir.
T'étais déjà dans cette projection de faut trouver un homme de sa vie, quoi.
Oui, je pense. C'était plus ou moins conscient, mais disons que j'avais cette idée, j'avais en tout cas cet espoir, cette envie de rencontrer la personne avec qui je ferais ma vie. Après, c'est aussi le schéma familial qui veut ça. Mes parents se sont rencontrés très tôt. Je crois qu'ils étaient ensemble à l'école, enfin en 6e, 5e. Et ils ont passé, enfin ils sont encore ensemble, ils ont passé toute leur vie ensemble.
Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre en 6e, 5e.
Ouais, c'est ça.
What the fuck? Ah oui, ouais, ok.
C'est ça. Après, je crois que leur histoire a débuté un peu plus tard. Je n'ai pas toutes la vraie histoire, malheureusement, une petite censure familiale. Je n'ai pas tous les détails. Mais je sais qu'en tout cas, ils se sont rencontrés très, très jeunes. En fait, mon père était un ami du grand frère de ma mère. Donc en fait, voilà, ils se sont rencontrés très tôt et ça était toujours leur premier amour et leur unique amour. Et mon frère a rencontré celle qui est maintenant sa femme et la mère de son fils. En seconde, il avait 15 ans et c'est son unique amour et la femme de sa vie. Donc j'étais aussi dans cette idée que tu peux rencontrer l'amour de ta vie à 14, 15, 16 ans et que ça durera toute la vie.
Tard, quoi. T'es limite à la bourre, quoi.
À partir de la seconde, j'étais en retard.
Est-ce que tu as la sensation aussi d'avoir grandi avec, des contes de fées, des Disney, des comédies romantiques peut-être aussi qui t'ont un peu forgé ça ou...
Oui, des livres, des comédies romantiques américaines, beaucoup de séries télé, enfin les premières séries télé que je regardais sur une chaîne qui, je pense, a disparu depuis, qui s'appelle les Filles TV.
Ah ouais.
C'est une chaîne du câble. Je regarde ça quand j'étais au collège et donc il y avait les premières séries Degrassi, Ma vie de star sur l'histoire d'une jeune lycéenne qui devient une star de la musique. Et donc, voilà, les premières séries qui mettent en scène un personnage féminin qui tombe amoureuse. C'est quand même souvent ça, le cœur de l'histoire.
Plutôt dans ce sens-là, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est rarement les mecs qui tombent amoureux des meufs. Hein. Mais bon. OK. Et donc, est-ce que tu as la sensation, je ne sais pas, quand tu es au lycée, d'avoir déjà une appétence pour la littérature et justement pour l'écriture? En fait, je me demandais à quel moment mais ça vient beaucoup plus tard, c'est ça le moment où tu te dis, ok, en fait, ça pourrait vraiment en être un métier. Et finalement, ce truc-là que je fais comme un hobby depuis que t'es toute petite, quoi, tu pourrais en faire un vrai truc, quoi.
Mais en fait, le côté « je vais en faire un vrai truc », je suis encore en train de processer cette information. Donc là, je suis toujours pas à l'aise avec cette idée et tout à fait claire avec cette chose-là. Mais
on est bien d'accord que tu as sorti un livre, là,
oui,
qui marche très bien.
Oui.
Et donc, tu es validé par une maison d'édition.
Je suis validé par la street.
Tu es validé par fucking Amélie Nothomb, comme tu vois. Mais t'es toujours pas dans ce truc de ok, en fait, ça pourrait être une activité, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok.
En fait, parce que c'est quelque chose qui se fait assez progressivement, justement, le succès d'un roman, c'est plein de choses les unes après les autres, et il faut intégrer cette info. Et ça vient forcément avec la peur de se dire, ça a très très bien marché pour celui-là, est-ce que ça sera le cas pour le suivant, est-ce que, plein de questions. Donc je suis encore en train de faire la part des choses. Après, il y a quelque chose d'assez distinct dans ma tête entre le fait d'écrire des romans, et ça je sais que je le ferai toute ma vie, et je sais que je continuerai à écrire et qu'il n'y a rien qui m'empêchera d'écrire, mais c'est la différence entre écrire et en faire son métier, et que mon métier à temps plein et que mon travail ce soit être écrivaine. Et ça, pour moi, c'est deux choses assez différentes. Et pour la réponse B, travail écrivaine à temps plein, c'est mon métier, ça c'est quelque chose encore qui est en questionnement, en construction.
Tu veux dire que t'es pas sûre de vouloir en faire ton métier?
Si, je rêverais d'en faire mon métier, mais ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est un métier, comme tous les métiers artistiques, forcément instable. C'est un métier, ça voudrait dire que je dépends de mon écriture pour vivre. C'est-à-dire que si aujourd'hui je m'arrête de travailler...
Pour payer tes factures.
Pour payer, oui.
Pas pour vivre.
Oui.
Parce que j'ai un autre podcast sur l'argent. Si
oui,
tu veux.
D'accord.
C'est pour ça que
tout à fait.
Ça me fait tilt.
Pour payer mes factures.
non, mais
c'est vrai, c'est vrai, c'est exactement ça.
Ça veut dire que tu peux continuer à écrire et tu ne vas pas mourir.
C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est une question de temps aussi. Enfin, de quelle est mon activité principale. Mais effectivement, ça me fait peur aussi de me dire que du succès de mon roman dépendent toutes ces choses comme payer mes factures. Quand j'ai écrit ce livre-là, et c'est encore le cas actuellement, je travaille. Donc, c'était une joie immense. Mais il n'y avait pas cette pression. Il faut que ça marche. Et si ça ne marche pas, je commence à être vraiment dans l'embarras.
Ok. On va recreuser ça.
Oui, oui.
Parce que c'est passionnant, je trouve. Et c'est pour ça que c'est cool aussi de t'avoir maintenant, tu vois. Parce mm-hmm. que je trouve que ce moment-là, qui est un peu charnière, j'ai l'impression, dans ta vie, où t'es justement, t'as sans doute un truc, à un moment donné, de te poser la question de à quel moment j'en fais une activité à plein temps et j'y consacre ma vie, et j'imagine que ça...
C'est la grande question de toutes mes journées, donc oui. Okay. J'espère que tu as 5 heures devant toi, parce que c'est à peu près la grande question.
Ok. Mais donc, pour revenir au lycée, qu'est-ce que tu fais après bac ?
Pour revenir à ce que tu disais juste avant, après, je pense qu'il y a un peu l'illusion rétrospective. Forcément, on regarde son passé avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, donc forcément, c'est facile de faire ça. Mais l'écriture a toujours été là. Je me souviens plus de cette histoire. Enfin, il y a plusieurs histoires dont je me souviens plus, mais ma mère me les a re-racontées récemment. En primaire, je m'en souviens vaguement, fallait écrire une rédaction, une histoire sur un thème imposé. Et la maîtresse avait dit, super ton histoire, mais c'est ta maman ou ton papa qui l'a écrit. Et j'étais genre, bah non, enfin je l'avais fait toute seule à l'étude, etc. En plus, mes parents ne m'aidaient pas pour mes devoirs. Et je me souvenais vaguement de cette histoire et ma mère me l'a racontée.
Mais elle t'a même pas posé la question. Elle t'a juste envoyé
sous le bus. C'était invraisemblable qu'une enfant de 8 ans ait écrit cette histoire. En fait, c'était juste tout. Un fait que non. Et donc, ma mère m'a re-raconté cette histoire en disant que, effectivement, elle en avait parlé avec la maîtresse en disant, bah, enfin, jusqu'à preuve du contraire, non, enfin, Maud l'a écrit à l'étude, enfin, je n'en avais pas entendu parler, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, non, je pense que Maud a écrit cette histoire. Et donc, il y avait cette chose-là que j'avais oubliée et dont on a reparlé avec ma mère. Et avant ça, quand j'étais petite, je devais avoir 4-5 ans, j'avais dit à mes parents, plus tard, je serai écriviste. Et mes parents m'avaient dit, journaliste. Parce qu'ils se disaient, en fait, mon père travaillait dans la presse, il est comptable dans une structure de l'imprimerie du Monde. Et donc, pour moi, mon papa travaillait dans les grosses imprimantes de journaux. C'était assez flou, mais le monde de la presse me disait quelque chose. Donc, ils se sont dit, ah bah c'est ça, Maud fait le rapprochement avec son papa, donc journaliste. Et j'étais, non, écriviste. Et ils étaient là, donc écrivaine, vraisemblablement, et ils ne savaient pas du tout d'où ça venait, parce que... C'était pas vraiment un métier qui était dans l'horizon familial. Donc il y avait plusieurs choses sur mon chemin, et notamment au lycée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir vraiment bonne élève, parce qu'il y avait de plus en plus d'écriture. Et j'ai des visions, là pour le coup très nettes, je m'en souviens, c'est pas ma mère qui me les a racontées, mais en terminale de mon prof qui dit, qui rend les copies, qui dit j'ai quand même envie de vous lire les premières pages de la copie de Maud. En fait, comment c'est possible d'écrire comme ça? Et il lisait, il était là, mais vous. Et je le souviens, il commentait, il disait. Est-ce que
il
vous...
lisait au reste de la classe.
Il lisait à toute la classe. C'est là, est-ce que vous voyez la fluidité? En fait, ce qu'il disait, c'était. C'est transparent. En fait, elle écrit. Et donc, il lisait mes intros de terminale. Et donc, c'est là, une des premières fois, on a relevé le fait que j'écrivais bien. Et c'est arrivé. Donc, juste après le bac, je suis rentrée en prépa littéraire, en Hippocaine. Et je me souviens, la toute première dissertation qu'on a eu à faire, c'était. L'art d'avoir raison, je m'en souviens. Et donc, toute première disserte d'Hippocaine. Et donc là, j'arrive en prépa à Paris. Moi, j'étais en région parisienne, dans pas un excellent lycée, plutôt en banlieue. Et donc, j'arrive prépa parisienne dans le 5e arrondissement avec des gens qui venaient de Henri IV, le Grand et d'autres grands lycées. Et là, je me dis, ouf, ça va faire mal. Donc, grand sentiment d'infériorité pendant la première semaine de cours. Je me dis, oulala, enfin... Ça va pas être possible. Et je sens que la première semaine, ils nous font faire du coup une disserte avec, on n'avait eu aucun cours en fait. C'était la rentrée et ils disent voilà, première semaine, on va faire une disserte le samedi, comme ça, ça va permettre de connaître votre niveau, de vous mettre en jambe. Donc je la fais en me disant oulala. Une semaine après, le prof rend les copies et il dit il y a deux copies qui ont eu la meilleure note. Et je me sens, il s'appelle Sam et il dit il y a Sam et Maud. Donc là déjà, je pense tomber de ma chaise en me disant bon, bah ça veut dire que même en prépa, en fait, je suis quand même légitime et enfin, j'arrive quand même à avoir la meilleure note de la classe. Enfin, ça me semblait totalement ahurissant à ce moment-là. Et il dit, il y a ces deux copies et il dit, c'est dans deux styles différents parce que Sam, c'est très fouillé, c'est une copie très dense, avec très érudite, etc. Et il y a Maud, espèce de copie d'une simplicité enfantine. Et le prof de philo relève l'écriture. Il dit, c'est écrit, c'est d'une simplicité, ça a l'air simple, mais en fait, c'est complexe. Et ce qui était drôle, et il dit, donc entre les deux, il dit, ah, Voilà, c'est en fait juste deux très, styles très différents. Et donc là, c'était la première fois pendant mes études supérieures où pareil, en fait, c'est plutôt les profs qui ont commencé à relever dans mes copies le fait qu'il y avait une écriture. Et ce qui se démarquait dans cette écriture, c'était qu'elle était pas fleurie, pas érudite, pas, mais qu'elle était hyper simple, en fait. Mmh. Mais que finalement, ça marchait.
Bon, on en reparlera un peu après, mais c'est vrai que tu as un style très oral à l'écrit qui, de ce fait-là, se lit facilement, quoi.
Je crois que c'est ça qui, c'est ça que les profs relevaient, surtout sur des sujets de philo où on peut être un petit peu tenté de faire des jolies phrases, des jolies formules avec des mots compliqués. Moi, j'ai toujours été phrase courte, simple, deux points. Enfin, voilà, un idéal de faire très, très simple. Donc, effectivement.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with their curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ça te vient d'où? Comment t'as appris à écrire comme ça, justement? Est-ce que t'as souvenir d'avoir lu des trucs ou d'être allé t'inspirer? Il n'y avait pas vraiment Internet à l'époque, enfin, même si t'es pas non plus super vieille, mais...
C'est une bonne question. Je pense que ça va avec ma manière de penser, qui est j'ai vraiment besoin que les choses soient claires dans ma tête avant de les formuler. Et je déteste tout ce qui est l'esbrouf. J'aime pas, et notamment dans la philo, ça m'a empêchée parfois. Je me disais tellement de mots compliqués pour dire des choses simples, et parfois ça s'y prête parce que la philo, et après j'ai fait des études de philo, c'est une science des concepts, donc il faut des mots précis pour nommer les choses. Donc quand il y a un concept, ça s'y prête, mais parfois, notamment toute la philo plus années 70-80, structuralisme, on comprend rien. On ne comprend rien. Enfin, je suis désolée, Derrida, je ne comprends pas une ligne. Non, mais c'est vrai, je ne comprends pas. Et je me disais, et je partais du principe, parce que j'avais aussi confiance en moi, en mode, si je ne comprends pas, c'est qu'il y a un souci, c'est que c'est pas clair. Enfin, c'est pas normal que je sois incapable de lire ça. Donc, j'ai toujours eu dans l'idée que n'importe quelle idée aussi complexe puisse-t-elle, oh là là, comment j'inverse, puisse-t-elle être, qu'elle puisse en tout cas s'énoncer clairement. Et pendant toutes mes études, j'ai donné beaucoup de cours particuliers pendant mes études. Et mon grand plaisir, c'était « Ok, t'as rien compris, c'est pas grave, je vais t'expliquer. » Et prendre des mots simples et dire « En fait, c'est très très simple. » Ok, la notion du beau chez Kant, ok, en deux mots, t'inquiète, c'est ça. C'est quoi la différence entre le goût, le beau, etc. Et donc je pense que ça se ressent dans ma manière d'écrire. Donc ma manière d'écrire, c'est aussi ma manière de penser qui est, on va dire les choses comme elles sont.
Ok. Donc tu fais des études de philo, c'est ça?
C'est ça.
Après ta prépa?
C'est ça. En fait, après, donc je fais mes trois années de prépa à Paris. Dernière année de prépa, donc je passe des concours. Donc je passe à ce moment-là deux concours. Je passe le concours de l'École normale supérieure de Lyon en philo parce que c'était là où en fait je serais affectée parce que j'étais en philosophie moderne. Donc je passe ce concours-là, mais
T'avais en tête de devenir prof?
Non, pas du tout. Okay. Mais en fait, on pourrait y revenir, c'est une excellente question. À ce moment-là, j'arrive en prépa, et je me souviens, un premier cours d'hypocagne, on me dit, la prépa, le but, c'est d'intégrer Normal Sup, et c'est le Graal. Il faut faire ça. Donc moi, je dis, ok. Je ne savais pas ce que c'était le NES, je ne savais pas ce qu'on y faisait, donc ça m'a joué des tours par la suite. Mais en tout cas, moi, je prépare ce concours parce qu'on m'a dit qu'il fallait le préparer. Et en fait, ensuite, je me suis aussi rendu compte que dans ma session en philo, il y avait peut-être une quinzaine de places, je pense, mon année, un truc comme ça. Et donc, je me suis dit, c'est quand même un petit peu risqué. Donc, je passe à un plan B. Donc, j'ai préparé les écoles de commerce. Enfin, quand les écoles de commerce, j'ai parlé deux écoles de commerce. J'ai passé HEC et l'ESSEC. Et en fait, donc, j'ai fait ma prépa. Et à l'issue de ma prépa, j'ai intégré le NS et HEC, les deux écoles. Et là, j'ai commencé plus ou moins à faire les deux écoles en parallèle. Ce qui, en fait, reposait la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qui est une question qui m'a tourmentée pendant...
Parce que entre le parcours ENS, qui est plutôt, pour le coup, une voie très littéraire, et HEC, qui est pour le coup, vraiment hyper commerce et business, grand écart total, quoi.
Ouais. Mais je pense que je suis vraiment rétrospectivement, après on donne toujours du sens rétrospectif, mais je suis un peu un mélange de, des deux. Et en fait, à l'ENS, je me sentais pas à ma place parce que c'était pas une question de légitimité, mais c'était vraiment une question d'intérêt. C'est-à-dire qu'on passe d'une prépa, on a plein de cours différents, à, donc j'étais en philo, à que des cours de philo, à des cours de 3 heures sur les textes de jeunesse de Kant. Non, je me sentais plus vraiment concernée et je voyais dans ma classe des gens passionnés parce que c'est merveilleux la philo. Il faut juste être passionné quand on va à ce niveau-là. Et je me disais, oh là là, ça me... enfin, ça m'intéresse pas, je n'ai ni envie de faire une thèse, ni envie de, d'enseigner, j'ai... ça ne m'intéresse pas de cette manière. Donc je me sentais pas à ma place. Et à HEC, en cours de finance de marché, je me disais, oh, je me vois pas non plus faire ça.
Tradeuse,
pas vraiment. Conseil en strat, pas trop non plus. Et donc là, la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie tournait à plein régime.
Et alors, comment t'arrives à choisir à l'époque?
Donc à l'époque,
ça doit être terrible.
Je ne fais. Après, c'est un peu problème de riche.
Non, mais c'est un problème de riche, mais ça n'empêche pas que ce soit un vrai problème, quoi.
C'était un vrai problème. En fait, à force de vouloir s'ouvrir toutes les portes, en fait, faut quand même en choisir une à la fin. Donc oui, ça m'a mise face à ça. Et en fait, ce qui m'a sauvée, c'est faire des stages. Et HEC, ils sont très bons pour ça. Il y a une année de césure entière, un an à faire que des stages. Et donc là, cette année de stage, je l'ai blindée. Du premier jour, je pense qu'on finissait le cours le 30 mai, le 1er juin, j'avais un stage, alors que les autres élèves commençaient les stages de début septembre. Non. Moi, j'ai fait un premier stage de 3 mois, après un stage de 4 mois, après un stage de 6 mois, et après un stage d'été, pour faire un nombre de stages, enfin le plus important possible, pour justement trouver ma voie. Et c'est comme ça que j'ai fini par trouver ce que je voulais faire. Donc j'ai fait un tout premier stage dans l'édition parce que je me disais j'adore les livres, la littérature, édition. Ça me paraissait être évident. Au bout de 3 mois, je me suis dit ça sera pas l'édition. Pour la faire courte, je me suis dit j'ai trop envie d'écrire pour être une bonne éditrice. Ah oui. En fait, j'avais déjà très envie d'écrire et j'écrivais déjà un manuscrit. Je me suis dit en fait je vais juste être frustrée d'aider d'autres à écrire leur texte ou de travailler dans un milieu alors que j'ai envie d'être la personne qu'on publie, pas l'éditrice. Donc je me suis dit, ouh là là, mélange des genres, bof.
Mais c'est quand même... t'as quand même une intuition géniale à l'époque, parce que tu pourrais très bien te dire... Enfin, tu vois, de venir mettre peut-être ton syndrome de l'imposteur, de... Ok, en fait, je suis en train d'écrire un manuscrit, mais c'est plutôt un hobby, quoi.
Non, mais je savais.
Ok, ok.
Enfin, en tout cas, je partais du principe que je voulais... En fait, je fais attention... confiance à ce que je ressens. Enfin, je me sentais aigrie. Et j'avais, à cette époque, je pense que je devais avoir 23, 24 ans, être en stage et être, moi, scrogneux, oui, ok, il publie ce premier roman, mais moi, j'aurais, enfin, non, je me suis dit, enfin, c'est pas du tout la personne que j'ai envie d'être. C'est pas, ça m'a l'air ni sain, ni très appréciable, cette histoire. C'est pas, enfin, je m'y sentais pas bien, donc c'était un rejet aussi assez naturel de me dire, c'est merveilleux, le monde d'une maison d'édition, je suis vraiment ravie d'avoir vu ça. Mais je ne m'y vois pas y travailler pour le moment. Et peut-être que plus tard, et je m'étais dit, peut-être que je vais aussi finir mon premier manuscrit, en écrire 2-3, me faire refuser, et écrire ce que j'ai à écrire, ça ne va pas marcher. Et je vais me dire, ah, mais peut-être que le milieu d'édition... Mais je sais que j'avais un petit peu des doses à régler avant d'y aller. Donc, je me suis dit non. J'ai fait un autre stage en start-up. Je me suis dit non. Et après, j'ai fait un stage, très très bien, mais pas moi. Ouais. Et là, j'ai fait un stage à la Maison de la Radio, dans l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard. Et là, je me dis, ouais, c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Donc, premier jour de stage, je rentre de mon stage. Je me souviens, je raconte à mon copain de l'époque, c'était incroyable. Je lui raconte tout en lui disant que j'ai des étoiles dans les yeux. Et il me dit, ok, super, mais on en reparle dans 6 mois, si t'es toujours aussi enthousiaste. Et je me souviens que donc 6 mois plus tard, exactement la même ferveur. Je dis oui, on a fait ça et ça, c'est incroyable, et ça et ça et ça. Et là, je me suis dit, c'est vraiment là où j'ai envie de travailler. Et je me souviens que j'arrivais le matin et j'avais un peu des papillons dans le ventre en passant les portes de la Maison de la Radio. Et j'aimais mes collègues, j'aimais la mission de service public, j'aimais le direct, j'aimais le fait de travailler sur un objet concret. J'aime bien en fait produire des choses. Et donc, je travaille sur des émissions et donc je travaille. Et ensuite, l'émission a lieu et en fait, c'est terminé et on passe à autre chose. Et le fait de... Ouais, que ça soit pas... J'aime bien aussi le fait que ce soit assez court terme et que ça soit concret.
Ok. Donc là...
Ça collait.
Mais donc, les médias particulièrement ou... Enfin, les médias ou la radio particulièrement?
La radio.
Ah ouais.
La radio.
Qu'est-ce qui te plaît dans la radio?
J'aimais...
La voix.
Bah, c'est vrai, j'aime la voix. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de, de personne physique. Enfin, je ne suis pas très à l'aise avec mon image, avec, avec l'image en règle générale. Donc le fait d'être une voix, je trouve que c'est... Enfin, c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise et que j'aime. Puis c'est aussi quelque chose que je consomme. C'est plus simple forcément d'aimer un média quand... Enfin, j'ai toujours écouté la radio. C'est un des premiers cadeaux de Noël que j'ai eu quand j'étais au, quand je vais être au collège. Et mes parents m'avaient offert une petite radio pour Noël que j'écoutais en cachette. J'écoutais les filles du Move à l'époque.
Ah là là.
Ouais, oui.
Coucou Émilie Mazoli.
Oui. J'écoute. Je suis une grande fan. et je trouvais... Enfin, je trouve ce média incroyable. Et ça m'a suivi pendant un peu... plein d'époques de ma vie, au collège avec les filles du Move. Après, plus tard, j'ai écouté France Culture, France Inter, des radios musicales. Et donc, j'aimais le média. Donc déjà, de le consommer, je pense que ça aide à y trouver du plaisir, à y travailler, parce qu'on sait pourquoi on le fait. Et je trouve qu'il y a vraiment un monde de la radio. J'aime aussi travailler avec des gens très différents, et notamment être au contact des équipes techniques. En fait, j'aime travailler avec les techniciens du son, j'aime travailler avec des réals. Enfin, c'est des gens qui ont un savoir-faire qui est incroyable. Et je travaille avec des gens enfin, super talentueux et qui sont très enthousiastes et qui aiment leur métier. C'est... En fait, je trouvais ça incroyable d'être dans une boîte où les gens se lèvent le matin, ils savent pourquoi ils le font, ils sont surmotivés, très fiers de travailler à France Inter aussi. Vraiment l'étendard France Inter. Et ouais, pas blasés. Et super motivés. Et ça correspondait à ça. Et aussi de travailler avec Augustin Trapenard en particulier et dans Boomerang. En fait, moi, je voulais travailler dans la culture parce que j'aimais beaucoup la culture. Mais il y avait un côté un peu, ah, tu travailles dans la culture, ça veut dire que c'est chill, c'est pas forcément exigeant par rapport à d'autres stages HEC que je pouvais faire si je faisais un summer de finance à Londres, en gros.
C'est sûr.
Voilà. Et en fait, avec Boomerang, j'ai trouvé la culture, mais niveau exigence, 1 million. Et je me suis dit, en fait, on peut travailler dans la culture et faire des gros horaires, être très, très, très exigeant et, ouais, et refaire la même chose 200 fois s'il le faut et ne pas se dire, oh, c'est la culture, donc on va glander. Alors, c'était tout sauf de la glande quand on travaillait dans une émission quotidienne. Et donc, je me suis dit, ouais, ça correspond exactement à ma personnalité même.
Ok. T'as un peu ce côté-là, mais on en reparlera peut-être un peu après, mais dans ton rapport à l'écriture, t'as un côté très no pain, no gain, quoi, c'est ça?
En fait, je pense que je suis consciente qu'il y a un certain nombre de choses qui prennent du temps et c'est du travail. Et l'écriture notamment, enfin, c'est tellement de travail, c'est tellement de temps. Donc ça correspond en tout cas à certaines personnalités dont je fais partie qui sont... Enfin, je lâche rien. Et j'aime pas ces phrases-là. On pourra couper le « on lâche rien ». Mais
je lâche rien.
Le « je lâche rien », j'ai vraiment dit ça. Mais je pense qu'il faut une certaine persévérance. Je préfère le mot « persévérance ». Et je me souviens d'une soirée très, très arrosée que j'avais fait avec ma meilleure copine Zoé. Et donc, j'étais ivre morte. Et je lui dis « Zoé, est-ce que tu penses que mon roman, ça va aboutir ? J'étais en train d'écrire mon manuscrit. Est-ce que tu penses que ça va marcher ?» Et elle était aussi ivre que moi, et en me regardant dans les yeux, elle me dit « Maud, j'en sais rien, je peux pas te dire pour ce manuscrit, mais elle dit « T'es la personne la plus persévérante que je connaisse, donc ça sera peut-être pas celui-là, mais je ne peux pas croire que ça ne marchera pas pour toi. » Je ne peux pas y croire, en fait. Parce qu'à chaque fois que je me suis donné des objectifs, enfin, peu importe ces objectifs, j'ai toujours réussi à les atteindre parce que, en fait, je me plie en 25. Et j'ai bien aimé le mot qu'elle a utilisé, enfin... Enfin, Zoé, c'est ma meilleure copine depuis la seconde. Okay. Pour le coup, j'ai pas rencontré l'homme de ma vie en seconde, mais j'ai rencontré l'ami de ma vie en seconde.
C'est déjà super.
Ce qui est déjà super. Mmh. Et c'est vrai qu'elle m'a connue à plein d'étapes de ma vie et qu'elle me dise « tu es la personne la plus persévérante », je trouve que c'était déjà un grand compliment et ça collait avec la radio, ça collait avec l'écriture et ça collait avec tous les objectifs que j'avais.
C'est à ce moment-là que tu te lances dans le podcast, c'est ça? Enfin, c'est après ça? C'est suite à ça?
Ensuite... oui, c'est un peu parallèle. Donc, j'aimais beaucoup le milieu de la radio. Et à ce moment-là, on est à peu près en 2014-2015, je découvre le monde des podcasts grâce à une amie.
Tout début, donc vraiment.
Tout début.
Enfin, en vrai, pas tout.
Pas tout, tout.
Désolé
mais...
pour les puristes du podcast qui existent depuis c'est genre ça. 2000 et quelques, quoi.
C'est ça. Moi, j'ai découvert ça à ce moment-là, en fait, via des podcasts américains. Et là, le monde s'ouvre totalement à moi.
Est-ce que tu découvres le podcast par Serial ou c'est ça le fameux podcast de
C'est
de
pas
True
le
Crime,
premier, hein mais ouais. C'est effectivement un des premiers que j'ai écouté ensuite. Mais je découvre un podcast qui s'appelle Dear Sugars, qui est un podcast du New York Times par une écrivaine qui est un courrier du cœur d'une écrivaine américaine qui s'appelle Cheryl Strayed, qui a écrit un livre qui s'appelle Wild, qui a été adapté, enfin, très...
Avec
Reese Witherspoon, exactement. Et qui est une personne incroyablement inspirante, et je pèse mes mots, parce que pour que je dise qu'une femme est inspirante, c'est qu'elle est vraiment dans mon panthéon personnel. Et donc, je découvre le monde des podcasts, et notamment donc, les podcasts anglophones, et là, mon monde s'ouvre totalement. Et donc ensuite, quand il a fallu, parce que après cette année de césure, je finis mon master, je fais mon master 2, et en sortant de ce master, là, je cherche à me dire exactement ce que je vais faire. Donc je fais une première expérience dans un studio de podcast qui s'appelle Louis Média. Ensuite, je retourne à France Inter, où je travaille aussi sur les matinales et aussi sur leur podcast, Femmes puissantes, avec Léa Salamé notamment, Les Odyssées, donc différents podcasts de France Inter. Et là, je lis les deux.
On est bien d'accord que là, t'es toujours pas dans le micro. T'es pas en train de parler dans
non,
le micro.
Non, c'est ça. Ouais. Là, je prépare.
T'es en back-office.
Je fais le montage de cet épisode. Je fais le dérush de cet épisode. Exactement.
Ok. T'es pas encore en train de...
Pas encore.
T'es pas encore en train de donner ta voix.
Non, pas encore.
Ok. Qu'est-ce qui t'empêche, en fait, de donner ta voix à l'époque? Tu te sens pas prête, c'est ça, ou...
Plusieurs choses. À ce moment-là, j'apprends le métier. Donc j'apprends, et aujourd'hui, parce qu'on en parlera peut-être, mais aujourd'hui je travaille dans les podcasts, et d'avoir fait des heures de dérush, des heures de montage, d'avoir travaillé sur les podcasts des autres, bah forcément en fait on se sent armé, et pour moi c'est vraiment un artisanat, donc en fait on apprend ce métier-là, donc j'ai appris ce métier-là, et moi à ce moment-là ce que je cherchais c'était un métier. Et donc là je cherchais un métier, et j'ai trouvé un métier que j'aimais, que je trouve complet et passionnant, le podcast, on pourra en reparler. Et ensuite, c'était aussi les opportunités, parce qu'on n'arrive pas non plus dans une boîte de podcast en disant bonjour.
C'est quoi l'étape d'après alors? À quel moment tu te décides de te dire ok, en fait, en vrai, je vais lancer mon podcast à moi et let's go?
En plusieurs étapes, je continue à travailler sur différents podcasts et je commence à me réfléchir à quel podcast moi je voudrais faire. Et c'est assez évident que moi je veux faire un podcast sur l'amour, parce qu'à cette époque en plus, Le Cœur sur la Table, qui est un podcast qui a explosé depuis, qui est génial, par Victoire Tuallion, n'existait pas, donc il y avait vraiment rien en podcast sur l'amour, et je me dis vraiment j'ai envie de faire ça, et donc j'en parle à différents studios de podcast. Puis le groupe Énergie entend parler de moi, Énergie veut se positionner sur l'amour, et là les étoiles s'alignent, les planètes s'alignent, et là je lance mon podcast. Mais en général, enfin en tout cas moi j'étais sûre aussi que je voulais pas faire mon podcast toute seule. C'est-à-dire que j'aurais pu aussi bien avant me dire je sais utiliser un Zoom, je sais utiliser un micro, je fais mon podcast en indé. Mais moi j'aime le travail d'équipe, j'aime le fait de travailler avec du monde, et je me voyais pas le faire seule. J'aurais peut-être dû, j'aurais pu, enfin c'était un choix, et donc j'ai attendu en fait que l'opportunité se présente, et elle s'est présentée à ce moment-là.
Mais il y a aussi je crois un truc de peut-être qu'il faut réussir à se lancer toute seule, quoi, tu vois. Il y a un vrai truc de même si tu sais réussir, enfin même si t'arrives à gérer toute la chaîne de A à Z, il faut quand même avoir l'idée de se dire ok, en fait c'est un truc que je vais lancer par moi-même, et que je vais et parfois c'est plus intéressant d'aller chercher un groupe à côté, quoi.
Et puis je pense que c'est aussi une question de où est-ce qu'on met son énergie, et le fait que
énergie
clin d'œil et le fait que à ce moment-là il y a déjà l'écriture dans ma vie. Et encore aujourd'hui, je fais mes choix de manière très réfléchie. Parce que j'ai croisé quelques personnes depuis qui m'ont dit « Mais pourquoi tu n'ouvres pas ton studio de podcast ?» Et je dis « Mais parce que en fait, il y a 24 heures dans une journée et que je pourrais. » Je ne dis pas que j'y arriverai brillamment, mais c'est vrai que ce n'est pas absurde. J'ai fait des études dans une école de commerce, j'adore le milieu du podcast. Enfin, je veux dire, effectivement, ça peut s'y prêter. Mais tout ce qui est trop chronophage, tout ce qui va être un énorme projet, n'a pas la place dans ma vie, parce que je voudrais toujours que l'écriture soit devant. Donc en fait, même pour le podcast, je ne pouvais pas me dire « je vais le faire en indé ». Remuer, parce que c'est énormément de travail, remuer c'est les terres pour faire mon podcast, lancer, le faire connaître seul. Et en plus, me battre pour faire la même chose avec mon manuscrit. Et c'était l'un ou l'autre, et l'écriture passera toujours devant.
Oui, et puis lancer un studio de podcast, c'est monter une boîte, c'est devenir chef d'entreprise. Enfin, c'est pas forcément le même projet, quoi.
C'est pas le même projet, et c'est un projet qui... C'est le projet d'une vie. Enfin, en tout cas, c'est le projet de quelques années. Et moi, mon projet de quelques années, c'était pas celui-ci, c'est pas l'entrepreneuriat, et c'est pas le podcast.
Donc revenons à cette histoire de manuscrit, donc.
Le fameux.
T'étais donc en train d'écrire depuis un petit moment. C'était déjà mon mari, donc t'étais déjà en train de bosser sur mon mari depuis...
Ouh, beaucoup.
Ah ouais?
Depuis, je l'ai commencé pendant cette année de césure dont on a parlé tout à l'heure, mon année de stage entre mon M1 et mon M2. Donc on est en 2017 peut-être.
Genre 22, 23 ans, c'est ça?
C'est ça. Faudrait que je fasse le calcul. Je pense que j'ai 24 ans, quelque chose comme ça.
T'es assez jeune. Et qu'est-ce qui fait que t'as envie de raconter l'histoire de cette femme? Est-ce qu'elle est déjà... parce que là, on pourrait dire qu'elle a une petite quarantaine d'années, 35-40 ans.
Ouais, elle a 40 ans dans le roman.
Dans le roman, c'est vrai qu'elle a 40 ans, tu le dis. Qu'est-ce qui fait que t'as envie de raconter l'histoire de cette meuf Quadra alors que toi, t'y es pas du tout, quoi?
C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai quelques années de moins, mais précisément, en fait, la question que je me pose, c'est celle de est-ce qu'on peut trop aimer quelqu'un? Est-ce qu'on peut être trop amoureux? Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que l'autofiction, c'était pas vraiment ce que je savais faire ou ce que j'avais envie de faire. Et que j'aurais été absolument incapable d'écrire l'histoire d'une jeune étudiante en école de commerce de 25 ans qui emménage avec son copain et qui se pose la question de l'amour quand on vit à deux. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas écrire quelque chose de si proche. J'ai besoin de me mettre à distance. Et donc, je me suis imaginée, moi, dans 15 ans, je me suis imaginée, moi, avec une jolie maison, deux enfants. Enfin, je me suis projetée dans une histoire et on revient aux histoires que je me racontais comme quand j'étais petite. C'est l'histoire d'une femme et en fait, elle serait grande et elle serait blonde, elle ferait 1m80, donc pas moi. Et puis, elle aurait deux enfants et elle vivrait dans une belle maison et il se passerait ça. C'est le « et si ». Et si il se passait ça. Et donc, c'est cette histoire que j'ai inventé pour y mettre toutes les questions que moi je me posais et toutes mes obsessions très personnelles, mais j'avais besoin de cette fiction.
Et je t'ai entendu raconter que tu avais eu cette idée parce que justement t'en avais parlé à ton copain à l'époque, que toi t'étais, ça faisait 2 ans, c'est ça que vous étiez
exactement,
ensemble,
ouais.
Que t'étais redingue amoureuse de lui comme au premier jour et t'avais pas la sensation que ça matchait, enfin que c'était équivalent dans l'autre sens et tu lui as posé la question, c'est ça?
Exactement. En fait, je lui ai dit, mais tu ne m'aimes pas comme au premier jour. Et il me dit, mais c'est normal, Maud, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, c'est normal que je ne t'aime pas comme au premier jour. Et moi, j'ai trouvé ça révoltant. Et je dis, mais pourquoi, en fait, on ne peut pas continuer à s'aimer? Et moi, je faisais le constat, en fait, tous les mois, puis les années qu'on passait ensemble, que je continuais à l'aimer très, très fort. D'une manière absolue, très intense, très passionnée, passionnelle. Et je voyais que lui, c'était un amour beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. Et je le vivais comme une agression parfois. Et donc, c'est effectivement ce décalage et la question de combien de temps on peut aimer très fort. C'est ça qui a donné lieu à cette histoire.
T'avais envie de quoi? T'avais envie de lui dire « Non mais aime-moi plus !»
Ouais, bien sûr, j'avais envie de lui dire « Pourquoi tu m'aimes pas aussi ?» En fait, non, j'avais envie de lui dire pourquoi ça pourrait pas durer cet état des débuts? Parce que nos débuts étaient extrêmement passionnés et passionnels. Et je me souviens vraiment quand on se voyait les premières semaines, mais en fait, on était rouge jusqu'aux oreilles, rien que de se regarder dans les yeux. Enfin, faut imaginer on est tombés très, très, très amoureux l'un de l'autre. Et donc, c'était vraiment des scènes où je me souviens, on se croisait au loin, on était sur le même campus, et je le voyais arriver des mètres au loin. Et moi, je sortais de la cantine d'HEC, lui y allait. On se voit arriver à 20 mètres. Et pendant 20 mètres, on marchait pour finir par se croiser. On était rouges jusqu'aux oreilles. J'avais le cœur qui battait de juste l'avoir vu croiser. Et donc, moi, ce que j'avais envie de lui dire, c'est « Mais est-ce qu'on peut s'en souvenir de ça? Pourquoi maintenant pourquoi t'as pas le cœur qui bat juste de par ma sainte présence dans notre salon? Je ne comprends pas. »
Et lui, l'a vécu exactement de la même façon ou alors c'était un truc que tu projetais, toi? Parce que j'ai toujours ces questions, tu sais, de... Et puis c'est aussi un peu ce que pose ton roman, finalement. C'est à quel point toi, tu viens projeter en tant qu'individu des choses sur l'autre qui n'est pas forcément raccord de la même façon.
Non, je pense que on en a reparlé, donc je sais que c'était pas une projection de ma part. C'est le fait qu'on tombe très très amoureux et cet moment de très 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 intense, il était partagé et je pense que c'est pour ça qu'il était aussi intense. C'est précisément parce qu'on tombait tous les deux follement amoureux l'un de l'autre. En revanche, c'est la suite où lui, le fait que ça devienne plus serein et plus calme, il trouvait ça normal. Il me disait, mes mots de l'amour évoluent. Enfin, c'est pas pour ça que je t'aime moins ou que je ne t'aime pas. Et c'est là où, en fait, on n'a pas vécu la même chose. C'est que moi, je le voyais comme un abandon, comme un rejet. En disant, mais pourquoi tu n'es pas à pleurer mon départ si on se sépare plus d'un quart d'heure? Et lui, il ne comprenait pas bien mon problème. Donc, c'est là qu'on a commencé à vivre les choses différemment.
Ok. Et donc, tu commences à écrire ce bouquin en donc 2014, c'est ça?
2017, quelque chose comme ça.
2017, hein.
Ouais, je crois que c'est ça. Il faudrait que je regarde mon LinkedIn pour revoir les années. Ce serait facile de retrouver. Je pense que c'est 2017.
Ok. Qu'est-ce qui te... Comment ça se passe, en fait, cette transition de... Ok, en fait, maintenant, je vais me mettre un manuscrit et ça va plus rigoler, quoi.
Ça va pas rigoler. Comme on dit, je vais rien lâcher. En fait, ça se fait progressivement. Je me suis pas dit un jour, c'est sûr, c'est ça, je lâcherai rien. C'est plus, j'avais cette idée, donc j'ai écrit les 10 premières pages, mais c'était pas la première chose que j'écrivais. Donc parfois, j'avais des idées en mode, ah, ce serait bien que... Puis j'écrivais 5-10 pages, et puis j'arrêtais. Parce que la vie, parce que finalement, ça m'intéressait plus. Mais là, c'est la première fois que j'avais un sujet que j'aimais assez pour, en fait, j'écris les 10 premières pages, je continue, et après j'écris 20 pages, 30 pages, 40 pages, et 6 mois plus tard, ça m'intéresse toujours. 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ça me fait penser un peu à mes copines qui ont fait des thèses après l'ENS, et le moment de choisir leur sujet, c'était pas qu'est-ce qui m'intéresse maintenant, mais qu'est-ce qui va assez m'intéresser pour que pendant les 3, 4, 5 prochaines années, j'ai envie de m'y consacrer tous les jours, voilà, d'aller à la bibliothèque tous les jours pour chercher ce sujet-là. Et donc moi, mon mari, c'était à un moment, voilà, le sujet vraiment qui me passionnait et que j'avais envie de reprendre parce que je ne l'ai pas écrit tous les jours de manière ininterrompue. C'est les moments où j'étais entre deux stages, puis j'ai repris les cours, j'ai passé des partiels et j'ai commencé à travailler. Donc il y avait des mois entiers où je n'y touchais pas. Mais il restait là, un petit fichier sur le bureau de mon ordinateur. Et souvent, j'avais des idées, j'y revenais et il était, voilà, un peu en pointillé, mais il n'a jamais disparu.
Ok. Mais en gros, donc, tu finis par réussir à sortir ce bouquin. Ça fonctionne super bien. Donc, je disais au début, Amélie Nothomb qui vient dire, attends, c'est quoi, un délice irrésistible. C'est normal. Alors, que veux-tu de plus, quoi? J'imagine même pas comment tu vis le truc quand tu écoutes, quand t'écoutes ça. Qu'est-ce qui se passe en toi quand t'entends Amélie Nothomb parler comme ça de ton bouquin?
Sentiment, c'est pas clair. Mélange de beaucoup de choses, de fierté, de joie et maintenant de grande angoisse aussi, parce que rapidement la question du premier roman pose la question du deuxième roman, et là j'arrive dans un moment où plus on me complimente sur mon premier, plus je me dis mais le deuxième sera pas aussi bien, j'arriverai pas à faire aussi bien, ça va pas plaire autant pour X raisons. Donc c'est aussi une source d'angoisse.
Et j'imagine que t'es déjà en train d'écrire ton deuxième, c'est ça?
Oui.
Si je me trompe pas, t'as posté le premier une fois que tu l'avais terminé et que t'avais commencé le deuxième, c'est ça?
Exactement.
Tu t'es dit, ok, comme ça au moins ça c'est réglé, c'est fait, quoi.
Mais en fait, ça m'a fait tellement peur, cette étape de poster le manuscrit. Enfin, c'était vraiment une des choses les plus terrorisantes que j'ai faites parce que j'y avais mis tellement mon cœur et je me suis dit, les lettres de refus, elles vont être tellement violentes. Enfin, j'étais pas prête. Donc je me suis dit, il va vraiment falloir que je m'arme de courage. Et en fait, commencer à écrire un autre livre, c'est une manière de dire, et je l'ai beaucoup dit en plus à mes amis, je le pensais sincèrement, oui, bon, ce manuscrit, c'était vraiment un échauffement, j'étais à 10% de mes capacités, franchement, rien, enfin, c'était vraiment, c'est vite fait, mais le deuxième, vous allez voir, le deuxième, il va être vraiment, ça va être quelque chose là, ouais, bof. Et donc, c'était, oui, une manière de me protéger et de me projeter sur la suite et de me dire, ok, je vais me prendre une lettre de refus, deux lettres de refus, mais je continuerai à écrire. Et ça sera peut-être pas mon deuxième ou mon troisième, ce sera peut-être mon cinquième manuscrit qui sera publié, mais je continuerai jusqu'à ce que...
Donc ouais, t'envoies ce manuscrit, et j'imagine que t'as des réponses positives, ou alors t'as plein de réponses négatives, et t'en as juste une qui te dit « Ok, let's go ».
J'ai pas mal de réponses négatives, et j'ai 3 maisons qui me recontactent dans les semaines qui suivent.
Ce qui est pas mal.
Ce qui est pas mal, et ce qui est quand même un signe que les maisons d'édition ouvrent vraiment leur courrier et lisent vraiment les manuscrits, ce qui est pour moi vraiment la nouvelle la plus réjouissante de 2021 pour moi, parce que je me dis, mais en fait, ouais, il y a quelque chose de profondément naïf et accessible dans l'édition française. On envoie par la poste et on ouvre les manuscrits et ils les lisent et ils nous rappellent.
Oui, il n'y a pas comme par exemple aux États-Unis où il y a forcément... C'est un marché d'agents, en fait.
Exactement.
Tu es obligé d'avoir un agent qui va pousser auprès des maisons d'édition Là, toi, t'es personne, tu vois, tu peux juste envoyer
c'est
une lettre.
Ça. Et pour la petite histoire, j'avais fait un stage dans une maison d'édition et c'est la seule maison d'édition à laquelle je n'ai pas envoyé mon manuscrit parce que, en fait, une jeune femme qui s'appelle Lucie, que j'embrasse d'ailleurs, était assistante d'édition là-bas et je lui avais demandé de relire mon manuscrit, de m'aider à écrire ma lettre, etc. Donc elle m'avait aidée à le faire et je me suis dit, et à ce moment-là j'étais quand même vraiment persuadée, et je dis pas ça, hein, que j'allais me prendre que des lettres de refus parce que justement j'avais fait un stage en maison d'édition, je voyais les manuscrits qui arrivaient, ils en publiaient un ou deux par an de nouveaux manuscrits. Donc je me suis dit, bouf, c'est quand même mal engagé et je voulais vraiment tellement pas la mettre dans une situation de porte-à-faux et je voyais les gens qui disent « Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux glisser mon manuscrit ?» Et ce qu'on m'avait conseillé, c'était même que ça desservait. Parce qu'ils se disent « Oh là là, un truc, c'est la cousine de la sœur de l'autre, je vais être obligée de répondre un truc sympa. » Et donc, ça, déjà, ton manuscrit part avec un malus parce que voilà, c'est un service rendu. Et donc, finalement, contrairement à ce qu'on peut penser, l'envoyer de manière anonyme est préféré par les éditeurs.
Donc de ce fait-là, tu ne l'as pas envoyé à ta maison.
Et donc, je ne l'ai pas envoyé à cette maison-là.
Plutôt que de l'envoyer de façon anonyme.
Non, parce que je n'allais pas non plus changer mon nom. Oui. Et je me suis dit... Après, je l'ai envoyé à mes 10 maisons d'édition préférées. Et je me suis dit, bon, j'envoie à ces 10-là. Si j'ai que des lettres de refus, j'ouvrirai peut-être... j'en enverrai peut-être encore à d'autres maisons. Et donc, j'aurais sûrement avisé à ce moment-là. Mais en tout cas, à ce moment-là... Enfin, la question ne s'est pas posée. Mais donc, je ne l'ai pas envoyé à
Est-ce que Lucie n'était pas saoulée après coup de, que tu lui aies pas...
Alors, c'est une
traite. Moi, j'aurais été saoulée à cette
place. Non, parce qu'elle ne m'a pas proposé aussi.
Ah,
parce
oui,
que
okay.
Si elle m'avait dit « Non, mais attends, mais c'est tellement nous, il faut que je l'envoie à l'éditeur, etc. » J'aurais dit « Oui, bien sûr. » Mais okay. Vu qu'elle me le en plus, elle ne me le proposait pas. Elle disait « Bon, c'est super, je pense que c'est abouti, tu devrais l'envoyer à des maisons d'édition. »
J'avoue.
Voilà, j'étais un peu bon. Mais j'ai croisé donc, l'éditeur de cette maison d'édition, là, il n'y a pas si longtemps, en salon, qui m'a dit « Mais Maud, pourquoi vous nous l'aviez pas envoyé ?» Et je dis parce que j'ai pas osé, on me l'a pas proposé et j'ai pas voulu vous mettre dans cette situation. Voilà pour la petite histoire.
Ça, oui. je peux comprendre qu'à la place de l'éditeur, ils se disent merde, on a pu passer à côté d'un beau succès quoi. En plus, c'est quelqu'un, enfin, t'avais bossé là-bas quoi, tu vois.
Ouais, après, c'était un stage de 3 mois, oui. C'était pas.
Enfin, je veux dire, ils t'avaient sous la main entre guillemets quoi.
Oui, c'est ça, ça aurait pu, mais c'est vrai que j'ai même pas osé tellement dans l'édition faire passer des manuscrits me semblait être en plus j'ai des très bonnes relations avec cette maison que j'adore et je voulais pas être l'ancienne stagiaire un peu relou qui essaie de faire passer son manuscrit, enfin j'avais pas envie d'avoir ce genre de relation avec eux.
Ah, c'est intéressant, je suis en train de me demander ce que j'aurais fait. Et donc en fait t'es édité chez l'Iconoclaste, c'est ça?
Oui.
Et comment ça se passe en fait ce fameux rendez-vous, j'imagine?
Ouais, ça se passe c'est un grand souvenir. En fait j'ai rendez-vous à l'Iconoclaste, j'arrive et je rencontre celle qui deviendra mon éditrice, donc elle s'appelle Sylvie, et tout de suite le courant passe. En fait, j'aime leur approche du texte, je l'aime leur manière de travailler. Et en fait, moi, je cherchais vraiment un éditeur pour publier mon texte, mais j'avais pas compris que c'était aussi des collègues. Enfin, c'est une relation de travail et que je cherchais une éditrice, enfin quelqu'un avec qui travailler sur mon texte. Et je me suis dit, c'est pas tant l'Iconoclaste que cette éditrice.
Oui.
Et là, je me suis dit, mais c'est avec elle que je veux travailler. Et donc le travail a commencé. J'ai vraiment aimé rebosser mon manuscrit avec elle. Et après, j'ai découvert l'Iconoclaste, qui est une maison. Enfin, qui me correspond, et on parlait de toutes mes recherches de stage et aussi de, à un moment en fait il y a des endroits très bien mais c'est pas nous et on arrive quelque part, on se dit ok c'est exactement ça. Quand je suis arrivée à l'Iconoclaste, c'était exactement ça, c'est une vision de la littérature assez décomplexée, pas élitiste, pas ronflante, pas poussiéreuse, on va faire des bons livres mais accessibles à tous, enfin ça correspondait vraiment à ma vision de l'écriture, de la lecture et ouais ça cochait toutes les cases.
Ok, et t'as, enfin en tout cas moi j'ai lu ton bouquin ce week-end là, je l'ai totalement avalé. C'est tellement fluide à lire. C'est un page turner. C'est un page turner. Et en fait, je trouve vraiment que c'est vraiment hyper agréable à lire. Et en fait, quand je te vois là maintenant, je comprends. Enfin, pour moi, ça match parfaitement, quoi. Tu vois, il y a un truc qui colle très bien entre ton écriture et ta façon d'écrire et ta personnalité, en fait. Donc, ça marche à merveille.
C'est un beau compliment, ça.
Il y a un autre truc qui m'intéresse aussi, c'est en fait quand ton bouquin sort, à un moment donné, t'as ton livre qui se trouve en librairie, quoi.
Ouais.
Ça doit être un truc aussi, ça, non?
Mais en fait, à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où mon livre a été imprimé, c'est devenu totalement, pas irréel, mais on rentre dans quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Et donc là, c'est totalement différent. Mais en fait, déjà, il y a un saut tellement important entre le fichier sur mon ordinateur, mes petites notes dans mon carnet, mes trucs perso, et un livre. J'arrive, j'ouvre des cartons et je vois des piles de mon livre. Le jour où on a reçu les paquets pour les services de presse, alors là, déjà, de voir mon fichier Word démultiplié et transformé en ce livre, déjà là, le choc a été, je pense, à ce moment-là, bien plus que quand il arrivait en librairie. Là, il y a eu un choc. Ouais, c'était assez percutant. Mais encore une fois, on est dans une maison d'édition. On n'est pas tout seul. J'étais pas tout seul dans mon garage à découvrir mon livre. On est avec des responsables librairie qui m'expliquent. Alors voilà, on a envoyé le livre au représentant. Il va se passer ça. Il va être pitché là. Toi, t'as rendez-vous telle date, telle date, telle date pour aller présenter ton livre à tel endroit, tel endroit. Et en fait, chaque étape est amenée et on est entouré de... Enfin, l'iconoclaste en particulier babysit un petit peu, ce qui est très très bien pour moi, ces auteurs. Donc en fait, on est accompagné à toutes ces étapes-là. Mais ouais, c'est de voir le livre qui m'a semblé fou.
Et tu trouves qu'avec l'Orcule, ça t'enlève un peu la magie de justement avoir un process très processé comme ça?
Non, pas du tout. Non. Au contraire, ça la démultiplie et je me rends compte qu'il y a une industrie qui est merveilleuse derrière. Et je vois à quel point ce que j'aime bien dans cette maison d'édition, c'est que, enfin, on parle de succès parce qu'on est dans ce podcast, mais c'est un succès collectif. Enfin, c'est un sport d'équipe, l'édition. Il y a le texte, évidemment, mais il y a l'éditrice, quel travail à faire sur le texte. Il y a toute la partie communication. À l'Iconoclaste, quand je suis arrivée, ils venaient d'embaucher quelqu'un aux réseaux sociaux, au digital. Donc, quelle va être la stratégie sur les réseaux sociaux? Quelle va être la stratégie avec les libraires? Et la stratégie avec la presse, avec les prix, avec toutes ces choses-là. Et c'est vraiment une petite équipe qui travaille tous dans le même sens et dans la même direction. Et là, on se sent pas du tout seul.
Et comment... En fait, pour moi, le truc aussi qui est fou, c'est à un moment donné, donc tu sors ce livre de ton fichier Word, comme tu dis, qui finit par devenir un bouquin. Et comment tu vis aussi les premiers retours de tes lectrices et de tes lecteurs, quoi? Ça doit être un truc, ça.
C'est drôle parce que je crois que tu avais raison sur le fait que c'est bien qu'on se parle maintenant, parce que même maintenant, ça me semble un petit peu moins frais. Je me souviens de...
T'as sorti ton bouquin en septembre,
c'est ça, en septembre.
On est en mars, là, ok.
Et je me souviens de mes tout premiers retours, de ma toute première interview radio. Je ne sais même plus où est-ce que c'était, mais c'était vraiment ma toute première. Et on me pose cette question-là et je réponds. Je suis totalement, vraiment, je ne sais pas quoi dire parce que je ne comprends pas qu'on puisse commenter mon texte en bien ou en mal. Et parce qu'en fait, tous les gens commencent à me dire « Ah, j'ai adoré » ou « Ah, j'ai pas aimé ». Et en fait, à commenter, et je dis à la personne qui m'interviewe, j'ai l'impression d'être dans la rue avec une robe que tout le monde... à un commentaire à faire sur ma robe, mais même gentil. Oh, j'adore, mais vous l'avez acheté où? Mais elle est très belle. Ou oh, j'aime pas du tout, ça vous va pas? Ou ah, très sympa. Et en fait, tout le monde commente, alors que d'habitude personne ne commente ce que je fais au quotidien. Et là, tout le monde avait un avis positif ou négatif. Donc maintenant, ça me semble totalement normal. Mais je me souviens que là, c'était les premiers jours et je ne comprenais pas tous ces commentaires qui venaient. Et j'étais interviewée avec une autre écrivaine qui avait publié une vingtaine de bouquins et qui avait dit: tu verras, Mo, tu apprendras à mettre un manteau sur ta robe.
Oh.
Et hey. Agnès de Sartre, que j'embrasse. Et on a été interviewées toutes les deux à la radio. Et je vois exactement ce qu'elle veut dire. Et donc, même maintenant, ça me semble...
Oui, t'as déjà oublié.
J'ai déjà oublié.
La fraîcheur des...
Mais c'est vrai que je me souviens des... Enfin, je trouvais ça mais incongru. J'en disais, ah, j'ai adoré tel passage. J'étais genre, oui, ok. Enfin, quoi ça me semblait fou. Et ça maintenant, ça me semble normal.
Ça te semblait fou que... ton texte puisse toucher les gens, c'est ça?
Non, ça me semblait fou qu'il puisse être sujet à commentaires. En fait, c'est comme si, du jour au lendemain, tout le monde commençait à te dire « Ah, j'adore ce que t'as écrit dans ton petit carnet. Ah, c'est super, hein, j'adore ton carnet. » Et t'es là, mais déjà, je l'ai écrit pour moi. Enfin, pourquoi ça ne te concerne pas vraiment. Et pourquoi t'as tout d'un coup un avis sur ce que je fais? Enfin, c'était plus quelque chose que j'ai fait pour moi, de mon côté, toute seule, pendant si longtemps, tout à coup, soit l'objet de commentaires. Enfin, qui suscite des choses chez les gens. Mais un des premiers chocs aussi que j'ai eu et que maintenant j'ai tendance à oublier, c'est quand le texte ne nous appartient plus. Et notamment un des premiers retours de lectrice. Une lectrice qui me dit « Oh, j'étais tellement touchée de la scène avec l'italienne, là. » Et je fais « Mais il n'y a pas de scène avec l'italienne. Et donc, je commence à... Mais si, l'italienne, une vieille dame, une vieille dame avec qui elle parle. Je fais non. Si, au bord de la piscine. Ah, cette scène-là. Mais on n'est pas du tout dit que la dame était une vieille dame. Et en fait, la lectrice avait imaginé la scène dans sa tête, ce qui est totalement... chouette, et vu des choses, mais me parlait de cette scène, je ne reconnaissais même pas mon livre, parce qu'elle avait rajouté des choses qui n'étaient pas du tout mentionnées, pas du tout mentionnées, l'âge de cette dame, etc. Et voilà, et donc ça, c'était les premières...
C'est le fabuleux pouvoir des bouquins,
ah, où ça,
tu
c'était
finis
fou.
Par, toi, en tant que lecteur ou lectrice, de venir coller des
choses qui n'étaient pas dedans.
Ils ne sont pas du tout là.
Mais c'est vrai que même ça, maintenant, ça me semble normal, et il y a quelques mois, j'étais vraiment stupéfaite.
Et comment tu fais aujourd'hui, alors que tu as, comme tu dis, cette pression qui monte et tout, pour continuer à écrire le bouquin que tu as envie d'écrire? Et sans te foutre une pression parce que j'imagine que de ce fait-là, l'écriture de ton premier, il est plutôt... tu y mets ce que tu as envie d'y mettre, en fait.
Exactement.
Là, il y a tellement de trucs qui viennent derrière.
Oui.
C'est une question sans doute chiante pour...
Non, mais c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse parce que je suis en plein dedans. Après, il y a quelque chose dans l'écriture qui est un artisanat. J'ai beaucoup dit le mot artisanat. Mais donc, il y a beaucoup de questions, beaucoup de pression, beaucoup de peur. Mais en fait, au bout d'un moment, t'es juste derrière ta page à écrire. Donc, en fait, au bout d'un moment, tu te tais, tu t'assois et t'écris. Donc, j'ai l'impression que ça va se régler juste par le fait d'écrire. Et... la pression, elle existe, mais il n'y a pas non plus quelqu'un qui vient me taper derrière l'épaule quand je suis derrière mon ordinateur. Donc, en fait, derrière mon ordinateur, je reste quand même seule derrière mon ordinateur à écrire. Donc, j'essaie de continuer à faire, quoi qu'il arrive.
Est-ce que tu t'es fixé une deadline pour te dire « Ok, faudrait que ça soit bouclé pour ce moment-là ou... »
Oui, je m'en suis fixé une pour me donner un horizon. Au début, elle me semblait très lointaine et facilement tenable. Maintenant, ça me semble totalement... Enfin, maintenant, elle est devenue irréaliste parce que ça prend un temps... démesuré, et puis je travaille à temps plein, donc en fait l'écriture arrive dans les moments où j'ai du temps, c'est-à-dire malheureusement assez rarement, donc la deadline s'éloigne dans le temps.
Parce que tu continues à bosser pour Énergie, c'est ça aujourd'hui?
C'est ça.
Et tu continues à produire des podcasts?
C'est ça.
Et c'est ton travail genre 5 jours sur 7?
C'est ça. Okay. Exactement.
T'écris quand alors? Le soir, le week-end?
Soir, week-end.
Le matin?
Non, le matin,
non,
je
le
dors.
Le matin, tu dors.
J'aimerais. Les gens me disent, mais c'est facile, lève-toi à 5h. Et je dis, non.
Bah non.
Ah non. Le sommeil, l'écriture a une grande place dans ma vie, mais c'est vrai que le sommeil est okay. Un petit peu au-dessus.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, parce qu'on manque de temps, mais est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont t'aurais aimé causer?
Non, je crois pas. Mais il y en a sûrement 1000, mais...
Ouais. Écoute, et tu sais pour quand tu sais quand est-ce que va sortir ton bouquin, ou tu te projettes déjà, ou alors tu veux surtout pas teaser un truc qui n'est pas...
Pour l'instant, j'ai pas de date parce okay. qu'il est pas du tout assez abouti. Quand j'aurai fini une V1, enfin quelque chose avec un début, un milieu, une fin, je pourrais commencer à me dire. En fait, les temps dans l'édition sont tellement lents et longs parce que c'est des process très longs. Je pourrais me dire, ok, j'ai fini quelque chose, donc il peut peut-être sortir dans un an. Ou dans un an et demi. Mais tant que j'ai pas déjà écrit quelque chose qui a un début, milieu, une fin, je peux même pas me dire que ça sera dans un an ou deux. Donc là, c'est peut-être au moins dans 2 ans, 3 ans.
Okay.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Bah écoute, merci beaucoup, Maud.
Merci à toi.
C'était super, très instructif. Et en fait, je te donne rendez-vous dans 10 piges.
Ouais, c'est ça.
Quand tu vois, tu seras, je sais pas, l'idée que t'auras du succès, quoi.
Ouais, c'est ça.
Un grand merci à toi.
Merci à toi.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.